Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Bonjour et bienvenue dans ce qui représente un monde où il fait bon s'asseoir. Quelque chose de très universel, sociétal, et peut-être depuis la nuit des temps, le banc public. Et dans notre studio aujourd'hui, le Bureau international du banc public. Une belle représentation de cette association saint-marcelinoise. Je vous propose bien de faire un petit tour avant de s'atteler véritablement à ce que représente ce bureau international composé d'un certain nombre de personnes de tout horizon et notamment son président Bernard Dimier. Bonjour Bernard, bien vous inaugurez ce tour de table.
Oui, mais très heureux. Je peux faire une petite correction, mais c'est normal parce qu'à chaque fois c'est la même chose. En fait, depuis maintenant 12 ans, c'est devenu le bureau de l'international du banc public. Et je m'en expliquerai tout à l'heure en fait. Effectivement, à l'origine c'était le BIB, bureau international, mais c'est le bureau de l'international.
Voilà, que l'on nomme communément le BIB.
Le BIB.
À vos côtés, Bernard.
Donc, Françoise Rouard, linguiste. Moi, j'ai participé à un collectif qui s'appelle Parole Partagée, qui avait lancé un concours de radio citoyenne, auquel vous avez peut-être participé. Et puis, créatrice d'une association sur la lecture à voix haute à Paris, qui s'appelait Lecture Poursuite. Voilà. Et linguiste, par ailleurs.
Pierre Balouet, dessinateur de presse et d'humour.
Et puis aussi président
de France Cartoon. Président des associations France Cartoon, qui est des associations de dessinateurs.
Oui. Et également à cette table à vos côtés, Bernard, à votre droite.
Oui, Paul Tolila, philosophe théoriquement, ancien haut fonctionnaire. Je ne suis membre d'aucune association sauf de celle-là. Enfin, ce qui m'a intéressé pour aujourd'hui, c'est de travailler un peu par rapport aux auditeurs sur l'histoire du banc. Parce que, pas pour corriger, mais pour une petite information, le banc public n'existe pas depuis la nuit des temps.
Ah, ça c'est important à le souligner. On verra pourquoi. Alors, on peut déjà toucher un mot, Bernard, en tant que président, de cette volonté. Qu'est-ce qui a fait que ce banc public se concrétise de cette manière par cette association? C'est bien une association?
C'est une association qui est très ancienne, puisqu'on va bientôt fêter ses 40 ans. Vu que nous sommes très vieux, on va peut-être un petit peu avancer. Parce que les 40 ans, ça sera en 2027. En fin de compte, c'est du hasard, cette association. Elle a été créée en 1987. J'ai expliqué un petit peu pourquoi. En fait, depuis le début, et qui remonte avant 87, c'était 1972. Alors on remonte dans le temps. Et le hasard a fait que certains dans Paris en voiture, et là, c'est l'imbécile que j'étais, quand c'était dans un embouteillage, avec des photos que je venais d'aller chercher chez des gens que je peux citer, puisque ils sont peut-être plus là maintenant, c'était Berriot, Alain Berriot et Martin Berriot, photographe, qui faisaient des tirages. Et je reste au moins une demi-heure, et je vois à côté de moi un banc sur un boulevard parisien, dans les fumées des voitures, il était sale, mal placé, et il avait quand même, heureusement pour lui, il avait une touffe d'herbe à un pied. Alors j'ai toujours appareil photo sur moi, je prends la photo. Rapidement, nous déménageons, nous quittons Paris pour aller sur la banlieue sud, et là, d'un seul coup, je retrouve un nouvel univers, et des bancs partout, épouvantable d'esthétique, et puis parce qu'il y a aussi à peu près n'importe où. Et rapidement, je continue ma collection, je fais 200-300-400 photos, qui intéressent des amis, des copains qui étaient profs aux arts déco, notamment, que je vais reciter, c'est décédé aussi, c'était Jean-Paul Salis, qui était graphiste, et qui, d'un seul coup, se met à l'environnement, et donc intéressé par ça. Et puis donc, les années passent, et effectivement, 15 années déjà, Et on me demande de participer au salon des artistes décorateurs. Si on avait quelqu'un de la famille qui s'occupait de ce grand salon parisien. Et moi, je réponds, je suis pas décorateur, je suis graphiste, j'ai rien du tout. Puis d'un seul coup, je me dis, j'ai des photos, on peut faire un truc. Et là, j'imagine de faire un banc avec des inclusions sous plastique, des objets oubliés sur les bancs. Et coup de chance, il y avait une entreprise voisine sur Rungis qui faisait ça. On fait un devis qui n'était pas très élevé, enfin quand même, mais il fallait payer ce banc. Et là, je sollicite un emprunt, auprès de la mairie, et donc il faut créer une association. Donc je crée une association pour avoir effectivement une subvention. Ouais, c'est une subvention. Et je n'ai pas eu la subvention, donc j'ai pas eu le bon. Et néanmoins, j'ai eu un article dans Elle. Et finalement, j'ai pas fait d'expo, parce que j'avais rien du tout. J'ai eu un article dans Elle, voilà. Et ben, l'association, elle était quand même née, en fin de compte. Et donc, tous les gens qui étaient là, rapidement, sont manifestés, faire des choses. Alors, à l'époque, vu ma profession de prof d'art plastique, j'avais évidemment autour de moi des illustrateurs, des publicistes, j'avais pas mal d'enseignants dans l'équipe, qu'il y avait quand même un technicien dans l'industrie, et puis quand même on a eu comme une chance d'être parrainé par Paul Grimaud, l'illustre cinéaste de films d'animation. Aussi, on avait dans l'équipe un gars de l'équipe après Prévert qui était Gaby Aligné, qui avait fait les décors du Roi et l'Oiseau. Et rapidement, effectivement, on a écumé les expos avec des images de bancs, des objets, et du spectacle aussi, parce qu'on avait dans l'équipe, on avait un comédien. C'est bien un comédien, quand même. Et puis, on a inauguré en 89, deux ans après la création de l'association, on a inauguré le parc de Belleville, à Paris, lors d'une exposition dans un collectif de photographes qui s'appelait le Beurre Floréal. Les années passent, on va un peu, on voyage à travers la France, on fait des trucs à Nantes, sur des expos, des spectacles. Et là, le hasard aussi va bien faire les choses. On était en panne d'idées pour des expos, car nous avons été sollicités par un théâtre de Malraux du Canal Bicêtre pour une expo, car j'avais laissé un dossier pour d'éventuelles expos, que j'avais oublié d'ailleurs. Et là, le hasard fait que j'avais envoyé à cette année-là, en 1994, une carte postale à un comédien qui était au Festival d'Avignon, qui s'appelait Le Beau. Et le gars va me répondre quelques mois après, car le facteur l'avait comme trouvé, c'était un miracle. Et il dit, voilà, je fais un spectacle sur le banc au Clermont Bicêtre. Bon, voilà. Mais on n'avait pas d'idée, exposer quoi. Bon, il fallait trouver. Et là, toujours le hasard fait que mon vice-président, j'avais un vice-président très longtemps, dans le métro, fait une rencontre avec un vieil ami à lui, qui était photographe reporter. Et ils discutent, et l'ami, qui était Jean-Charles Rousseau, mon vice-président, dit, tiens, puisque je t'ai photographe, est-ce que tu as des photos de banc? Parce qu'on fait une expo, là, il faut peut-être voir d'autres photos. Et il dit non, parce que moi, spécialiste, c'est l'Asie du Sud-Est, je pars demain au Vietnam, je n'ai rien. Et il dit, mais si, j'ai un truc, si je retrouve la photo, ma femme retrouve la photo. Ouais, c'était, il y a 20 ans de ça, peut-être à peu près, ouais. J'étais sur le Pont des Arts, à Paris, et je discute avec une très jolie touriste. Je discute avec elle. Et à ce moment-là, arrive un jeune gars. Un peu gonflé, le gars. Il me kidnappe. Ma belle touriste, il s'embarque. Et ce gars, c'était qui? C'était Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Et c'est là que l'idée jaillit. Si tu trouves la photo, on peut faire un truc. Les bancs de la vie, c'est-à-dire qu'on a une photo chez soi, une photo de banc. Et moi, une petite légende, et puis on récupère. Et effectivement, on a lancé une grosse exposition, au moins 30 participants. Alors, les gens nous ont envoyé des petites photos de famille ou autre, et avec une petite légende. Et dans l'équipe, on avait un graphiste qui a fait une mise en page de tout ça, avec un bel encadrement. Voilà, donc, grosse expression de 94. Ensuite, on a eu quand même des trous, des vides. Et puis, alors, l'expérience bien concrétisée de ces bancs de la vie. Il y a un deuxième volet, très longtemps après, qui était en 2007. Toujours dans la région parisienne, on était contacté par une médiathèque pour faire une exposition sur les bancs. On était un peu connus, quand même. C'était la nouvelle médiathèque qui venait de s'ouvrir, la médiathèque Boris Vian, je veux dire. Bon, on était un peu en cours d'idée, quand même, comme 20 ans avant. Et on dit, on va faire un deuxième volet des bancs de la vie. Alors, on a fait, donc, redemande aux gens. Mais comme les gens étaient équipés avec des ordinateurs, on s'est dit, les gens vont tout faire. Et ça sera tout fait, il n'y a plus qu'à mettre un sous-verre. Eh bien non, comme 13 ans avant, les gens voyaient une petite photo. Le texte, ça a été très laborieux, et il a fallu qu'on se fasse, c'était moi-même à cette époque, refaire des mises en page. Mais heureusement, l'exposition était quand même très très chouette, et pas mal de succès. Dire voilà, donc pour quelques années donc d'activité, et à après ça, bien sûr, on va quitter la région parisienne pour arriver ici, dans la région, cette région dauphinoise et Saint-Marcelin, où changement d'adresse. Et là, c'est là, effectivement, le changement d'appellation qui passe de bureau international à bureau de l'international, parce que j'étais très, très proche d'un groupe de graphistes assez illustres qui s'appelait Grappus, avec un de ses patrons qui était Gérard. Quoi, il n'y avait pas de patron. C'était des communistes, et surtout communistes d'ailleurs. Et c'est pour ça, c'est un petit clin d'œil à Gérard Paris Clavel, le bureau de l'international du droit public. Mais les gens ne voient pas bien ça comme ça.
Et ça, c'est en quelle année, Saint-Marcelin ?
C'est en 2012. C'est en 2012. Oui, c'est ça, en 2012. J'ai tapé maintenant, oui, ça a été 2012. Voilà.
Ouais. Et ainsi, c'est constitué, donc, localement.
Tout on a refait un réseau. On a refait un réseau, un petit réseau, parce que, d'abord, dans le réseau parisien, à Paris, il y a, je ne sais pas, 3 millions d'habitants, à Saint-Marcelin, il y en a 8 000. Puis les temps passaient, où c'est des associations un peu galérées, quand même. Non, on a redémarré, effectivement, heureusement, on a d'excellentes relations avec Pierre Balouet. Mon voisin de coteau d'en face. Et donc on a redémarré, mais quand même, effectivement, dans les assemblées générales, on était quand même une bonne vingtaine de personnes, quand même, faut signaler. Alors, je peux faire une petite parenthèse sur l'association qui paraît très active, évidemment, avec tout ce qui a été fait. Mais en fin de compte, c'était fait en dilettante. J'avoue, par rapport à des associations que je connais en ce moment, où je participe, les gens ont une activité prodigieuse. Nous, c'était en dilettante. Et les assemblées générales se faisaient avec force panier de charcuterie, bouteilles, etc. Et à Saint-Marcelin, ça avait un petit peu repris aussi cette habitude, cette tendance. Bien, finalement, on termine en 2012. Il a fallu attendre 5 ans pour, effectivement, on refasse les expos avec la médiathèque de Saint-Marcelin. Et puis, celle de Saint-Antoine aussi, qui avait duré très longtemps, d'ailleurs. C'était très, très bien. Et puis, bon, c'est un peu calmé, parce que c'est pas facile non plus d'avoir des idées et puis d'avoir des locaux. Si on a eu quand même une petite participation avec une sympathique médiathèque, et celle de Chatte, avec Sandrine, qui nous a sollicité quelques fois pour faire des animations ou des thèmes sur un thème qui était le thème du banc. Dès le début, les pionniers de l'époque, même des gamins qui étaient dans l'équipe, faisaient des photos. Alors, se sont pris de passion pour aller à la chasse au banc. Et donc, c'est pourquoi, bon, j'avais mes 200-300 photos que vous avez tout à l'heure, mais rapidement, les gens nous envoyaient donc des bancs, des photos de bancs, par milliers maintenant, en fin de compte, et ça continue. Dans les gens qui sont ici pour ce matin, ils sont aussi de grands pourvoyeurs de photos de bancs.
On peut faire un petit tour de table sur aussi les passions qui animent le banc, parce qu'il y a une notion de, purement de banc de discussion, c'est assez aussi anthropologique, c'est l'espace public, c'est aussi le contexte dans lequel est installé le banc, avec toutes les villes, villages qui accueillent les photographies, les différents bancs de l'espace public en France et à l'international. Paul, par exemple, on peut évoquer, vous, ce qui vous a intéressé à justement vous connecter à cet espace public du banc.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que nous appelons un banc n'a pas toujours existé. C'est même une invention assez récente.
Voilà, c'est pas la nuit des temps, comme je le disais
non,
un peu,
non.
Je m'avançais un peu.
C'est même une invention assez récente qui date fondamentalement du 19e siècle. Auparavant, par exemple, dans l'Antiquité, là, nous, le fait de s'asseoir collectivement côte à côte, comme on pense aujourd'hui sur un banc, c'était du marbre ou de la pierre dans des lieux de réunion, par exemple, comme les bains publics ou les choses comme ça. Mais ça n'était pas quelque chose d'extérieur. Ensuite, on a des bancs peu à peu dans l'histoire, mais des bancs qui sont en fait privés, dans des jardins privés, dans des parcs privés, etc. Ou dans des châteaux, toujours aussi des bancs de pierre, des choses comme ça. Et c'est en fait au 19e siècle que le banc public apparaît, notamment grâce à un préfet de la Seine qui s'appelle Rambuteau, qui a sa rue à Paris.
Et ça, ça sonne trop.
Ouais. Et qui installe les premiers bancs publics sous la Restauration. Et la grande vogue du banc public, évidemment, c'est un autre préfet de la Seine, c'est Haussmann, qui installe des bancs publics partout, dans les jardins, dans les parcs, dans les rues, notamment avec un ingénieur paysagiste qui s'appelle Alphand, et qui, lui, fait une combinaison arbre, lumière, banc. Voilà. Et alors, ce qui est très drôle, en fait, quand on regarde les choses, c'est que le banc public, rentre en confrontation, je veux dire en compétition, avec la chaise. Parce que auparavant, il n'y avait pas de banc public. Donc il existait une location de chaises pour que les gens puissent s'asseoir. Et il y avait des chaisières. Alors évidemment, les chaisières gagnaient leur vie avec de la location de chaises. Elles voient arriver les bancs publics et on est dans une forme de concurrence, hein, n'est-ce pas, entre quelque chose qui est de l'ordre d'une politique publique et une activité privée, etc. Alors ça, c'est assez drôle. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, on comprend bien que cette affaire de bancs publics survient après la Révolution française. Et la Révolution française crée quand même quelque chose, même avec la Restauration, etc., crée quelque chose, ou Napoléon, crée quelque chose qui est tout à fait original, c'est ce fameux espace public, désormais très développé, avec une attention aux citoyens. Le citoyen qui doit pouvoir se reposer, qui doit pouvoir, quand il est âgé, s'asseoir, etc., et surtout qui doit pouvoir aussi contempler une ville qui est belle et qui doit pouvoir communiquer avec ses concitoyens. Donc en fait, le banc public, il a d'une certaine manière trois grandes fonctions. Une fonction physique de repos, une fonction esthétique de regard et une fonction, politique de communication entre les citoyens. Alors c'est assez drôle de voir qu'effectivement, le banc public est très connecté avec, au fond, une espèce de substrat politique et civique beaucoup plus développé que ce qu'on peut penser quand on regarde un banc aujourd'hui, quoi. Alors, après, il y a évidemment des choses marrantes, c'est que une ville, c'est une réunion d'inconnus. Une ville, c'est un endroit où les gens ne se connaissent pas, ils passent les uns les autres, etc. Et donc, il y a des usages du banc. Et s'il y a des gens qui utilisent aussi les bancs de façon, comme on dit, convenable, citoyenne, etc., il y a aussi les marginaux. Et il n'y a rien de plus marginal que les vagabonds, ce qu'on appelle aujourd'hui les clodos ou les trucs comme ça, qui utilisent les bancs de façon extrêmement intensive. Alors, ça donne dans la ville, n'est-ce pas, des espèces de confrontations. J'ai amené d'ailleurs un petit exemple dans les archives de réaction à l'usage des bancs. Alors, par exemple, voyez ce que dit une dame qui dans les archives, hein, c'est une réaction de dame, qui dépose une plainte en disant « Une bande de jeunes gens tient ses assises sur un banc. Ils tiennent des propos et des chants obscènes, avec des gestes qui ne peuvent être répétés tant ils sont infects et dégoûtants depuis 7h jusqu'à 11h. » Avec une jeune fille, je ne puis laisser les fenêtres ouvertes. Donc, voilà une dame qui dépose une plainte pour le mésusage des bancs. Voici ce que l'administration lui répond, et c'est très intéressant. Si la mauvaise fréquentation momentanée d'un banc public suffisait à justifier sa suppression, on se trouverait dans la nécessité de procéder à l'enlèvement d'un grand nombre d'autres bancs au grand préjudice de la population paisible qui en profite habituellement. Voilà, alors c'est assez drôle parce que on a une histoire du banc liée à l'élargissement de l'espace public et à la citoyenneté. On a des usages du banc et des fonctions du banc qui sont d'abord définis, et ensuite des usages du banc qui sont extrêmement divers. Et vous noterez d'ailleurs que dans la chanson de Brassens que vous avez passée en début d'émission, toute la chanson de Brassens, c'est sur des usages du banc. C'est-à-dire les gens qui pensent de travers pensent que les bancs verts, n'est-ce pas, sont faits pour les impotents, pour les ventripotents, etc. Et Brassens dit, mais non, c'est pas ça du tout, etc., etc. Donc l'usage est un élément extrêmement important. Voilà. Bon, je m'arrête là, mais c'était pour contextualiser un peu les choses.
Voilà, un usage finalement approprié par toutes et tous, qui n'a pas vraiment de réglementation.
Voilà. Absolument, c'est ça. Et alors, effectivement, l'usage des objets, c'est quelque chose qui n'est en fait qui est rarement prévisible. C'est-à-dire, on ne sait jamais. On connaît ça depuis. Depuis très très longtemps, hein, par exemple, on trouve par exemple chez Rabelais dans les textes de Rabelais des usages des choses absolument invraisemblables, mais c'est juste pour plaisanter, pour etc. Mais qui démontre que il y a une imagination de l'usage, etc. Et que les êtres humains sont capables d'une innovation dans l'usage que les concepteurs d'objets n'ont jamais prévu. Voilà, ça c'est intéressant.
Faire un petit complément assez modeste sur l'usage du banc et la rivalité avec la chaise. J'ai un ami qui était d'ailleurs mon premier secrétaire, l'association d'un secrétaire, c'était Arnold Picardin, et qui voyageait beaucoup et qui, en Turquie, avait remarqué que des régions où il y a une cohabitation secteur chrétien et secteur musulman, le secteur chrétien avait sa chaise, pas de banc. Et le secteur musulman avait le banc, pas de chaise. C'était bizarre pour moi, comme ça. Et comme disait Paul, et de toute façon, les bancs étaient utilisés du côté musulman pour le marché, dans les marchés, pour poser les articles, les produits aussi, voilà. En plus de s'asseoir. Voilà.
On ne peut pas imaginer qu'avant, le banc n'existait pas, tellement ça paraît naturel de s'asseoir dans un espace public.
Ouais. Je crois que le banc aussi, très longtemps, était presque cousin du trône. Il y a un exemple d'un banc étrusque extraordinaire dans un musée. Effectivement, il a fallu attendre le 19e siècle, mais un petit peu avant, parce que dans le livre de Michael Jacobs, La politique du banc, il remonte un peu plus loin, Jean-Jacques Rousseau, et le parc d'Hermenonville, il y avait des installations de bancs dans un cadre paysager. C'est un début déjà, mais c'est pas effectivement ce qui va se passer au Xe siècle avec avec Grand Buteau, puis effectivement surtout Haussmann à Paris.
Voilà, le banc un peu rival de la chaise, d'où l'article dans ce bureau de l'International du banc public que j'ai sous les yeux, qui stipule une vive émotion avec une photo après l'installation du banc de la honte. Et en fait, il s'agit d'une simple chaise installée dans l'espace public, donc très individualiste. Françoise, vous, votre militantisme, on pourrait considérer ça comme un militantisme, votre passion pour le banc, qu'est-ce qui a fait que vous embrayez aussi avec le collectif?
Moi, j'étais très impressionnée par le caractère international, et la collection de cartes, de photos de Bernard. Donc, et je suis repartie, du coup, pour cette émission sur un tout petit tour linguistique, un peu fantaisiste, parce que je l'ai réalisé à partir de Google Traduction, sur les expressions et la présence du bon public aussi modeste et aussi sale que celui décrit par le président Bernard. Donc, en italien, banco pubblico. En corse, banco pubblico. En allemand, kostenlosbank. En chinois, kongkongchamden. En portugais, en chinois simplifié, s'il vous plaît. En portugais, banco pubblico. En russe, Obchestenbank. En japonais, Kokyo Bunti. En arabe, Mokal Bundale El Rampli. Voilà, j'ai terminé mon petit tour linguistique du banc public et des expressions du banc public. Et je rajouterai aussi, je suis tombée sur un article très intéressant qui montre l'occurrence du mot, de l'expression banc public dans le monde de 1900 à 1945. Alors, il y a des pics très curieux. Il y a un pic en 1953. C'est la mort de Staline, je ne sais pas si c'est un lien. Évidemment, 1968. 1974, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Ensuite, il y a 1995, c'est les grands mouvements sociaux contre Juppé à propos des retraites. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que l'expression « bon public » est très présente dans le journal Le Monde à un certain nombre de périodes. Et puis, par ailleurs, ben, il n'y a quasiment rien entre 44 et 50, ce qui n'est pas un hasard, je veux dire, puisque c'est la fin de la guerre. Voilà.
Entre ces différents pics, il y a une évolution du banc. Est-ce qu'il y a une raréfaction du banc actuellement ou ben, ça se maintient?
Il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire que les associations... on l'a un petit peu fait, ça, mais surtout, je reviens au Robin des Bancs. Effectivement, selon aussi le courrier des citoyens qui demandent à retirer un banc parce qu'il y a une population infréquentable. Et puis, à nouveau, il y a des gens qui, des vieilles gens, qui ont un courrier disant, voilà, je peux plus revenir de mes courses sans m'arrêter, donc il faut un banc. Alors, on remet un banc. Et d'ailleurs, récemment, a été inauguré à Saint-Marcellin. Un banc magnifique, il est vaste, il est grand, il est circulaire, il est bien conçu, il est abrité du soleil. Et c'est une initiative citoyenne du côté de quartier et de la municipalité qui a prévu ce genre de problème. Et donc il y a, depuis maintenant, c'était le 8 février, un nouveau banc à Saint-Marcellin. Qui va effectivement dans ce sens, on en rajoute, et puis peut-être que dans 6 mois, il y en aura un autre qui sera démoli ou détruit. Voilà, là, c'est fait assez particulier dans ce banc extraordinaire, qui est grand. Il côtoie un banc qui est complètement détruit, à 3 mètres de là, et qui n'a qu'à peine 10 ans, mais il n'a pas tenu le coup, je sais pas. Et ce banc, finalement, ben, on va le remettre. Donc, il va y avoir, dans ce quartier, décentré de Saint-Marcellin, donc un magnifique banc, on peut tenir au moins 10 dessus, puis un petit banc à côté, voilà.
Dans quel secteur, Bernard?
Alors, à Saint-Marcellin, ça, c'est la montée de la route de Chevrières, ça s'appelle la montée du Mollard. Il y a un côté paysager à gauche, avec le coteau, on dit de la Tivolière aussi. Chose qu'il faut signaler aussi dans les initiatives, c'est tout nouveau, c'est le propriétaire qui est Jean-Yves Balestas qui cède cet espace privé. Il fait une ouverture au public pour faire un espace paysager public avec une récupération d'énormes troncs d'arbres. qui ont été abattus parce que malades, notamment un cèdre qui appartenait. Et donc, il y a une douzaine de bancs, on peut dire, qui ont été sculptés par un excellent technicien de la tronçonneuse des services techniques. Et donc, il y a toute une série de bancs qui vont un peu du trône jusqu'à le banc collectif avec une table. C'est tout nouveau, ce truc-là. Voilà, c'est assez intéressant. Donc, Saint-Marcellin peut être fier. Moi aussi, le président, effectivement. J'étais un peu pessimiste à un moment, mais là, avec ça, effectivement, le banc revient. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui peut intéresser un dessinateur de presse pour le banc public? Je pose cette question naturellement à mon voisin de droite, Pierre Ballouet, bien connu en Sud-Grésivaudan pour ses dessins de presse, certes, mais aussi son militantisme pour le côté démocratique de l'expression et cette association, France Cartoons, dont vous êtes président, Pierre Ballouet.
Oui, c'est très pratique de dessiner des gens sur des bancs. Parce que si vous dessinez des gens en pied, debout, il n'y a plus de place en haut de l'image pour mettre la petite bulle, la petite vanne de bistrot qui fait marrer tout le monde. Donc quand les gens sont assis sur un banc, on a quelques centimètres de plus pour avoir une phrase un peu plus longue. Mmh. Voilà, c'est pour ça que j'ai dessiné pas mal de personnages sur les bancs, sur des bancs. Alors les bancs, moi j'ai rejoint le collectif Bib quand il a déménagé à Saint-Dragent de Saint-Marcellin. Moi, c'était surtout pour faire plaisir à Bernard, parce que je m'assois jamais sur des bancs, je m'en fous un peu des bancs. Mais si ça avait été une association de tir au pigeon ou de pétanque, je serais allé dans l'association de Bernard aussi. Et les bancs sont menacés. Alors il y a plusieurs choses. Il y a des bancs, il y a des nouveaux bancs à Saint-Marcellin dont Bernard vient de parler. Il y a l'immense banc de la Corniche de Marseille, qui est le plus long banc du monde, qui est un banc en béton, qu'une association de réinsertion sont en train de coller une mosaïque tout le long, de faire une mosaïque. Et puis les bancs sont menacés parce qu'on voit de plus en plus des trucs qui sont où on peut s'asseoir à moitié debout, à moitié assis, dans le métro et dans les villes, dans les abribus. Donc c'est pas des bancs, on est mal assis. Et puis il y a de plus en plus de chaises vissées au sol. C'est pas des bancs, on s'assoit tout seul. Alors là, ils sont terrorisés. Bien évidemment, les services publics et les municipalités sont terrorisés parce qu'ils ont trop peur que des SDF viennent piquer un petit roupillon sur les bancs et que ça passe un peu sale, quoi. Alors on les supprime.
C'est ce qui arrive notamment dans le métro.
Dans le métro, il n'y en a plus.
Il n'y a plus.
Et aussi, on voit, par exemple, quand il y a des petites marches devant les immeubles, on met des espèces de hérissons pour que les gens ne s'allongent pas. Enfin bon.
Le festival de la bande dessinée d'Angoulême, il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps, la municipalité avait décidé de mettre en cage des bancs pour interdire effectivement aux SDF de s'asseoir. Puis il y a cet intolé général, et je crois qu'ils ont été obligés de retirer les cages. C'est une idée extraordinaire, de mettre des bancs en cage quand même, ça c'est...
Alors l'avantage de cette association, c'est que maintenant, dans tous nos voyages, tous nos déplacements, comme on a tous un petit téléphone qui fait des photos dans la poche, les bonnes photos, on envoie nos photos à Bernard, il met ça en ligne sur le site.
Alors oui, c'est, à propos du site, oui, tout à l'heure, j'ai fait une petite pause, car en 2006, c'était l'année avant cette grosse exposition, les bandes de la vie numéro 2. En 2006, l'un des pionniers, qui était un gamin à l'époque, Robert Touati, a décidé de faire un site. Alors, on a un webmaster, Robert Touati. Et donc, depuis 2006, et on peut dire que maintenant, vu notre grand âge, et peut-être le problème des associations, le BIB s'assoit, c'est qu'à le dire, sur le site. Effectivement, bibasso.org, ou même si effectivement on met BIB sur Google, on tombe sur les bibliothèques, mais on tombe aussi donc sur le site. Et des milliers de photos à travers le monde, et puis on peut dire un aperçu sur ce qui se passe un peu partout, dans la presse, les événements, ouais, on a un aperçu sur les bancs. Et récemment, j'ai dû... j'ai déjà passé à cette époque. Mais à propos de l'école, après, ça n'a rien à voir, sauf les bancs de l'école. Et on a eu l'occasion de parler des enseignants qui sont un peu coincés pour les sorties, des problèmes de règlement, etc. À ce moment-là, je me suis souvenu d'une histoire qui m'a été racontée par mon webmaster, Robert Totti, qui est l'histoire qu'on peut retrouver sur le site, si vous écoutez bien, c'est dans les histoires de banc, en page 10. Voilà, alors vous avez écouté une histoire racontée par un élève, sur un texte de Robert Totti. En gros, c'est dans une école parisienne, un cours de sur un cèdre, sur le cèdre, hein, bref. Et l'instituteur n'était pas très calé en botanique, et il avait un réflexe, ainsi que ses autres collègues, vos manteaux, on y va. Et dans cette école du 13e, on traverse tout l'avenue d'Italie, on arrive au jardin des plantes, et effectivement le cèdre et le banc de Buffon. Et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de touristes autour, et l'instituteur qui s'appelle Arnold Picardac, t'es mon secrétaire, qui va devenir mon secrétaire, premier secrétaire de l'association, va rencontrer un truc extraordinaire, un bobard terrible. C'est ici que Buffon s'asseyait pour écrire toutes ses théories, etc. Et les touristes qui étaient là ont gobé l'histoire. Mais on l'a remercié. Et là, il a eu l'idée, Arnold Picardat, en sortant du jardin des plantes, d'aller en face chez les serruriers, demander une petite plaque, un tournevis et cadvis, et d'aller mettre sur un banc la petite histoire, c'est ici, quand elle est née, Buffon, c'est ça. Et peu après, eh bien, effectivement, la ville de Paris, les espaces verts ont mis partout, non pas cette histoire de banc, mais ont mis des petites plaques sur les bancs. Voilà. Là, ici présent aujourd'hui, on a la voix de Robert qui raconte ça, qui est ici, Noël. Il avait très bien lu à cette époque. C'était ça, très drôle. Alors, juste pour en revenir, effectivement, à cette époque, à Paris, dans cette école, les enseignants s'octroyaient une certaine liberté dans leur pédagogie. Et c'était remarquable. C'est une chose qui ne se fait pratiquement plus, ça, hélas.
Parfois des phénomènes de souvenirs, aussi d'hommages, de méditation. C'est une bonne assise pour le bon public, si je puis dire, cette notion de telle personne s'est assise là, ou alors en mémoire d'eux, un banc figure ici. Il y a quelque chose de patrimonial dans le banc.
Ben, le banc, c'est aussi... une arrivée et un départ, c'était à peu près une petite gare, en fin de compte. On arrive et on repart, on attend, comme à la gare.
Paul. Ce qu'on peut souligner, c'est que, effectivement, comme tout personnage important, si je puis dire, patrimonialement important, le banc public connaît aussi, si on peut dire, des débats d'attribution. Par exemple, beaucoup de gens affirment que l'inventeur du banc public est un monsieur qui s'appelle Hippolyte Laloux, qui est né à Saffray, près de Nantes, en Loire-Atlantique, là-bas, en 1873. Bon, alors, 1873, c'est un peu loin d'Haussmann, mais malgré tout, c'est un personnage tout à fait remarquable, il faut le dire. Il était prêtre iconoclaste, pas très en odeur de sainteté dans sa hiérarchie. Il a, semble-t-il, inspiré la loi sur les associations de 1901, participé à la séparation de l'Église et de l'État, parce qu'il discutait beaucoup avec Aristide Briand, avec Waldeck-Rousseau, etc., qui étaient des hommes politiques très importants de cette époque. Il a rencontré André Breton en 1915. Il est revenu en 1916 dans son patelin, il s'est défroqué. Il est devenu poète surréaliste, il a rencontré le général de Gaulle à la Libération, etc., etc. Et il est mort l'année où Brassens sort la chanson des bancs publics. Donc c'est une histoire assez extraordinaire, visiblement un personnage tout à fait remarquable. Je ne sais pas s'il est vraiment l'inventeur du banc public, mais en tout cas, autour du banc public, on le voit, gravitent des personnages qui sont tout à fait intéressants et qui démontrent que cet objet est, d'un point de vue patrimonial, extrêmement important si on veut bien enquêter un peu autour, etc. Voilà.
Moi, je rajouterais Françoise. Au personnage important Charles Perrault, qui quand même, au moment de la création du Jardin des Tuileries par Colbert et le nôtre, a demandé à ce que les jardins soient ouverts à tous et qu'on crée des bancs. Perrault, voilà, le conteur.
Je reviens juste pour la petite anecdote, on parlait des hommages. C'est un cycliste anglais qui résidait sur le Royan, qui est décédé, qui était professionnel, et ses amis, en hommage, lui ont installé un banc à l'entrée de Combes-Laval. On voit juste avant les encorbellements, il y a un banc, il paraît un peu improbable, en lisière de forêt, où est gravée une petite plaque en hommage à notre ami cycliste. Un banc, ça peut être également aussi un hommage.
Oui, dans... tout à fait, oui. Effectivement, on m'en a parlé. Finalement, j'ai un peu oublié, il faudrait le photographier. Et ça me fait penser à un banc que j'ai photographié presque au début, dans les années 80, oui. C'est le banc des cyclistes à la Croix de Noailles, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, du temps en gros 100 ans, vers 1920. Un journaliste sportif a eu droit à son banc pour l'honorer, et c'est un banc assez magistral. C'est un banc, c'est un monument en fin de compte, voilà. Et là, j'ai sous deux formes. J'ai la forme ancienne, elle est tout recouverte de mousse, et puis j'ai surtout quelques années après, il était tout nettoyé. Effectivement, on peut honorer, et c'est ce qui se fait dans pas mal de pays. Les pays anglo-saxons le font souvent, ça, depuis très longtemps. Alors, l'usage du banc, tout à l'heure, on en parlait effectivement. Alors, il était avec la chaise, il peut servir dans les marcher, à mettre des denrées dessus. J'avais qu'en Pologne, et dans les cimetières, il est fréquent, il est nombreux, pour mettre tout le matériel pour nettoyer les tombes. Donc sous le banc, il y a l'arrosoir, il y a de quoi, les petites raclettes, tout ça pour nettoyer les tombes.
Alors récemment, vous avez participé à des rencontres, puisqu'on évoque le côté patrimonial des bancs. Troisième rencontre du nom, rencontre du patrimoine à Saint-Marcellin. C'était l'occasion de poser vos bancs aussi.
Oui, c'est vrai que c'est il y a deux ans, puisque à nouveau il y a une biennale cette année. Il y a deux ans, effectivement, on m'avait sollicité à, on peut dire, animer avec du mobilier celui dont je dispose, des bancs. Oui, c'est une chose qu'on a fait aussi depuis quelques années. Oui, la nouveauté en arrivant sur Saint-Marcellin, c'est de faire des lectures sur bancs. Les lectures chez nous. Donc, il y a deux ans, on avait donc sorti des bancs assez bizarres et qui ont servi, effectivement, peut-être pour Radio Royan, toutes les radiologues là sont venues dessus pour faire des interviews. Moi, j'ai fait des lectures. Alors, ces bancs sont un peu bizarres parce que, effectivement, j'ai le banc des penchants, c'est des bancs qui penchent des deux côtés pour qu'on puisse se retrouver au milieu. J'ai les bancs des gens du coin, c'est un coin de ring. J'ai le banc à repasser de temps, le banc repasse-temps avec l'horloge qui tourne à l'envers. J'ai d'autres que bancs, effectivement, qui ont été utilisés, qui vont être à nouveau de sortie pour la prochaine biennale d'avril.
Précisez-nous le rendez-vous.
C'est le 12 et 13 avril, il y a les quatrièmes rencontres des patrimoines de la région, donc Isère-Drôme. Et je récidivise comme il y a deux ans avec des lectures. Bon, ça va servir aussi pour tout le monde, pour des points de rencontre. Et ce que j'envisage, c'est, puisqu'il va falloir peut-être manger à un moment à midi, c'est peut-être faire manger sur les bancs, peut-être. On va peut-être faire un... Je sais pas un concours, mais on va peut-être te voir, effectivement, des astuces, comment manger sur son sandwich. C'est à l'étude. Hein,
voilà. Voilà pour ces rencontres du patrimoine. Qu'est-ce qui anime aussi à l'année le banc, outre ces temps forts? Il y a des aspects de rencontres ou d'échanges avec d'autres. Il y a des ramifications à l'étranger aussi de votre association.
Comme je disais tout à l'heure, en fin de compte, on n'a pas tellement l'occasion de refaire ou de faire des localement des manifestations, ça prend du temps, de l'énergie, il y a de la concurrence aussi, et ce qui fait qu'on se repose sur des choses officielles comme la Biennale des patrimoines, par exemple. Sans ça, bah, il y a évidemment l'inévitable Assemblée Générale, pour des retrouvailles sur banc et avec des paniers, plein de bonnes choses. Voilà. Non, sans ça, effectivement, on se repose quand même sur ce qui vide plus, chose paradoxale, c'est le site, en fin de compte, puisque là, tout le temps, il y a des choses qui apparaissent, qu'on apprend des choses, en fin de compte, et puis, les gens sont contents, effectivement, ils m'envoient des bancs, et je les rebalance sur le site, et puis voilà, non, ça fait, la collection, ça fait plaisir, comme, effectivement, c'est la seule activité, intellectuelle, disons, au niveau physique, on fait effectivement beaucoup moins de choses. Voilà.
Voilà, bib.asso.org.
Paul tout à l'heure parlait de la rivalité entre la chaise et le banc. J'ai un peu regretté, moi, lors de travaux à Saint-Marcellin sur le Champ de Mars et la fameuse fontaine qui a fait force polémique. Bon, on a mis autour des chaises scellées au sol. Lors de l'installation, j'ai vu l'entreprise qui les a posées. J'ai fait des photos et j'ai discuté avec des installateurs qui étaient de jeunes gens d'ailleurs et qui effectivement, eux, disait que, en fait, c'est pas des chaises qu'il a fallu mettre, mais il aurait fallu mettre des bancs, en fin de compte. Voilà.
Des bancs, ça fait sens. Parlons de bancs dans la littérature aussi, qui prend une place à part entière.
Absolument. Le banc comme sujet littéraire, avec des orientations très diverses, notamment les histoires sentimentales sur un banc public. Ce sont une collection d'anecdotes écrites par Anna Klevin en 2006. Ensuite, une option libertaire, puisque aux éditions libertaires, Le passager des bancs publics de Daniel Giraud en 2021, qui explique que le banc est un lieu qui permet d'éviter la prison à vie qu'est la vie, quoi, et qui est un lieu de rêve. C'est un refuge entre deux fuites. C'est également la clé des champs pour ne plus déchanter. Et c'est ce qui permet de transformer la vie, que la prison de la vie ne soit pas une prison à vie. Donc, Le passager des bancs publics, Daniel Giraud, 2021. Et enfin, pour les enfants, pour les adolescents, aux éditions Bambou, un petit livre oublié sur un banc qui devient un support de communication et de rencontre entre deux enfants, puisque le livre circule d'un banc à l'autre. Je vais terminer. Et Bernard.
Presque au début, dans les années 80, lorsque le BIB est apparu. J'ai parlé de comédiens, mais il y a aussi beaucoup de poètes et de cercles de poètes, amateurs certes, mais qui ont participé, et même des écoles. Et ça fait aussi l'objet d'une exposition. Hélas, on a dû en lire, faire des enregistrements. J'essaie de retrouver un texte du comédien. Tiens, je vais peut-être le lire, comme ça. Je ne sais pas s'il est formidable. Enfin, je retrouve des choses. L'obsédé des bancs. Tous les matins et tous les soirs, je me rends en face dans le square, trouver l'objet de mes faiblesses, y déposer ma part d'ivresse. Banc dès le matin, banc dans la journée, nos vies demeurent des bancs d'essai. Obsédé des bancs, banc des obsédés, la vie demeure un banc d'essai. Je le chéris passionnément comme le plus docile des amants. Je lui parle et je le caresse. J'en suis jaloux, je le confesse. Banc dès le matin, banc dans la journée. Nos vies demeurent des bancs d'essai. Obsédé des bancs, banc des obsédés. La vie demeure un banc d'essai, etc., etc. C'était pas une chanson, en fait. Hein.
Oui, juste une petite insistance sur la liaison entre banc et espace public. Parce que s'il y a quelque chose qui tente à se restreindre aujourd'hui, c'est justement cette notion de l'espace public. L'espace public est de plus en plus privatisé. Et dans les traductions qu'a donné Françoise tout à l'heure de la notion de banc public, je voudrais retenir celle de l'allemand qui dit « kostenlose Bank », ce qui veut dire de façon littérale un banc sans prix, c'est-à-dire pour lequel on ne paye pas. Et l'espace public, c'est justement ça. C'est l'espace dans lequel on ne paye pas, où il n'y a pas de privatisation, etc. C'est une donnée extrêmement importante de la vie politique, tellement importante d'ailleurs que quand on regarde ce qui s'est passé historiquement dans des régimes dictatoriaux, on se souviendra peut-être qu'une des interdictions aux juifs du parti nazi, c'était justement de s'asseoir sur les bancs publics. Les juifs devaient disparaître de l'espace public. Donc cette liaison entre le banc, l'espace public, est une donnée de réflexion politique importante aujourd'hui et bien sûr dans l'histoire.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Paul, il y avait dans les apartheids aux États-Unis dans les années 50-60 et en Afrique du Sud, le pays de notre ami Elon Musk, il y avait des bancs réservés pour les Noirs et des bancs pour les Blancs, comme dans les places dans les bus ou les toilettes et tout ça, quoi.
Eh bien, merci beaucoup pour ce panorama des bancs. On pourrait discuter encore longtemps puisque c'est tellement de choses qui gravitent autour des bancs.
Un petit final avec un petit retour à mon univers, à notre univers avec Pierre, c'est le dessin. Et c'était le peintre Hélion qui disait que toute sa peinture, pour lui, le seul intérêt, c'était de l'horizontale et de la verticale. Et c'est vrai que, des hommes d'image, ce qui est séduisant dans un banc, c'est assez intellectuel comme vue, mais c'est effectivement cet horizontal, ce trait d'union et cette petite verticale quelquefois, et qui peut faire plaisir à un œil bon. De dessinateur.
Voilà. Peut-être encore de futures inspirations pour Pierre Balloué, le banc, et puis aussi tout ce côté d'expression qui symbolise un peu votre cheval de bataille, Pierre, autour de l'expression libre dans le dessin de presse. On peut rappeler également que vous avez toujours une exposition qui est en cours sur Pont-en-Royant.
Oui, il y a toujours une exposition qui est en cours au musée de l'eau de Pont-en-Royant. Il n'y a pas de banc, mais il y a des bancs de poissons. Parce que c'est une expo sur l'eau, évidemment, la pollution, la sécheresse, les inondations, la surpêche, c'est pour ça qu'il y a des bancs de poissons. Et elle doit se terminer fin mars, mais elle va sûrement être prolongée. On rajoutera de nouveaux dessins, parce qu'il y a 200 dessins de 40 dessinateurs du monde entier qui sont exposés sur des bâches, sur des toiles immenses. Cette exposition va être prolongée et il y aura probablement un catalogue qui sera édité et elle durera jusqu'à encore peut-être une année encore.
Voilà, cartooning. Alors il y a Cartooning for Peace, Cartoons sur le pont, ça se s'entremêle.
Cartooning for Peace est une association de dessinateurs, voilà. on n'est pas concurrents, on caracole côte à côte pour défendre les dessinateurs dans le monde entier. Moi je suis le président de France Cartoons. Qui est une association de dessinateurs francophiles. On défend les dessinateurs, on défend ce métier, qui est un métier qui devient de plus en plus rare, c'est difficile. La presse papier se vend de moins en moins, les journaux déposent le bilan, certains dessinateurs sont licenciés, donc on ferraille pour aider nos confrères qui sont menacés.
Bien voilà, on va peut-être déserter notre banc de discussion. Si vous avez toutefois quelque chose... Non, je remercie beaucoup Françoise, tout d'abord, Pierre, Bernard, le président de l'association du bureau de l'International des bancs publics, et Paul aussi pour ce côté historique très concis. Merci beaucoup à toutes et tous, et à très bientôt, sur un banc ou sur un autre.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques,